Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Notre histoire du jour illustre à merveille les bienfaits de la collaboration et de l'interdisciplinarité, puisqu'elle réunit autour d'un même projet un biologiste, un biochimiste et un bioinformaticien. Leur challenge, lutter contre le cancer en mettant au point une nouvelle méthode de diagnostic et de pronostic. Comment ? En regardant le paysage, mais pas n'importe lequel. Le paysage épitranscriptomique, j'ai réussi à le dire. Alors pour ce faire, ils n'ont pas utilisé de jumelles, mais des spectromètres et quelques rames de mémoire vive pour une petite analyse statistique. C'est un euphémisme bien sûr. Leur étude a fait l'objet d'une publication remarquée dans la revue Analytical Chemistry et on compte sur eux pour nous la décrypter pendant les 20 prochaines minutes. Avec nous en studio, Alexandre David, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes chercheur à l'Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier et donc vous êtes biologiste spécialisé du cancer, c'est ça ?
Tout à fait, oui, c'est clair.
Super. Éric Rivals, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au laboratoire d'informatique et de robotique et de microélectronique de Montpellier. Il y avait un « et » en trop. Donc le LIRM, dans lequel on fait un reportage depuis 3 semaines. Donc bienvenue.
Oui, merci.
Alors Christophe Hirtz ne pouvait pas être avec nous, mais on renvoie les auditeurs au reportage qu'on avait fait il y a quelques mois maintenant à la plateforme de protéomique clinique de Montpellier. Et donc lui est biochimiste. Elle aussi va faire ramer sa mémoire vive avec moi pour mener cette interview à l'interview.
Bonjour.
J'ai ramé pour le trouver, c'est le cas de le dire. En seconde partie d'émission, nous continuons notre exploration du LIRM, le laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier à l'occasion de ses 30 ans, je l'aurais répété. Cette semaine, c'est Robin Passama et Benjamin Navarro qui nous font découvrir le département de robotique. Enfin, Catherine Alix Panabière, directrice du laboratoire des cellules circulantes rares humaines, et praticienne au CHU nous parlera de l'exposition Cancer, visible depuis le 4 septembre et jusqu'au 8 août 2023 à la Cité des sciences et de l'industrie. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
Alors, pour commencer, donc votre étude, qui n'est pas la plus simple, concerne les marques chimiques de l'ARN. Alors, on sait approximativement ce que c'est que l'ADN, mais l'ARN, même si on en a entendu parler un peu plus ces derniers temps, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler ? Alors, peut-être vous, Alexandre David, pour commencer.
Oui, ben merci. Je vais essayer de l'expliquer de manière très simple. Alors, l'ADN est le support, effectivement, de toute l'information génétique, et l'ARN est finalement l'intermédiaire qui va permettre le transfert de cette information et sa transformation en protéines. Donc c'est un élément qui est essentiel dans la cellule et qui effectivement comporte une partie d'information génétique. Voilà.
Alors justement, vous avez étudié l'ensemble des modifications chimiques de l'ARN, qu'on appelle aussi épitranscriptome. C'était pas facile à dire en effet. Est-ce que, toujours Alexandre David, peut-être vous pouvez nous préciser quel rôle elles jouent ces modifications ?
Alors, ce qu'on appelle l'épitranscriptome, c'est l'ensemble des modifications donc, qui vont venir décorer les ARN. Donc on va les trouver sur l'ensemble des populations d'ARN. Et ce sont des modifications plus ou moins complexes. Il y en a un très très grand nombre, plus de 150 identifiés à l'heure actuelle. Et ces modifications n'ont pas été étudiées pendant très longtemps. Et on s'est rendu compte ces dernières années qu'elles jouent un rôle sur absolument tout le métabolisme de l'ARN, c'est-à-dire sa stabilité, sa structuration. Sa capacité à être décodée et à générer des protéines qui constituent la cellule. Donc en fait, ces modifications jouent un rôle central, majeur, et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elles confèrent à la cellule surtout une plasticité et une capacité à modifier l'expression de ces gènes en temps réel. C'est ce qui, dans un premier lieu, nous a conduit à nous y intéresser.
Alors, l'objectif, je l'ai dit en introduction, est donc de travailler sur une nouvelle méthode de diagnostic et de pronostic du cancer. Vous avez travaillé avec une cohorte de patients atteints d'un gliome diffus, un cancer du cerveau. Alors, est-ce que vous auriez pu travailler sur n'importe quel cancer ?
Alors, effectivement, nous avons commencé avec le gliome. Nous travaillons sur d'autres cancers, mais nous avons commencé avec ce cancer car nous avions déjà des collaborateurs. Il y avait déjà un partenariat qui avait été tissé. On avait une cohorte qui était disponible et qui pouvait être utilisée pour l'étude. Et nous avions aussi une question, parce que tout commence avec une question, et c'est les cliniciens qui la posent, c'est eux qui sont les plus à même de poser les questions relevantes pour le patient. Et la première question était justement de séparer les différents grades dans le contexte du gliome, et de les séparer de manière rapide, efficace. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes partis sur le gliome et que nous avons utilisé une cohorte de patients avec différents grades. Le gliome, du grade 2 vers le grade 4.
Alors, les grades, vous nous l'expliquez avant de rentrer en studio. Éric Rival, justement, les grades, c'est les stades de la maladie, c'est ça? On pourrait le traduire comme ça ou...
Oui, c'est des stades d'évolution de la maladie. Je crois que même en français, c'est plutôt stade qu'on dit.
Voilà. C'est pas impossible.
Et donc, en fait, ça peut commencer une tumeur qui peut être bénigne, et puis après, ça peut évoluer. Et donc, l'évolution de la maladie On considère qu'il y a différents stades, les cliniciens considèrent qu'il y a différents stades. Et donc ici, il y a un stade 2, un stade 3, un stade 4. Et le stade 4, c'est un cancer qui est extrêmement agressif et qui laisse très peu de chances de survie aux patients en pratique. Donc les cliniciens opèrent les patients et puis ils veulent essayer aussi de déterminer quel est le stade d'avancement de la maladie.
Et donc vous avez travaillé à partir de quel type d'échantillon, de quelles données en fait, concrètement?
Donc en fait, on est parti de chirurgie, de tissus tumoraux qui ont été issus d'opérations chirurgicales et qui ont été prélevés dans différents centres. Donc c'est une étude multicentrique qui a été réalisée. Et donc à partir de ces échantillons tissulaires, on avait donc, comme disait Eric, différents stades tumoraux qui étaient représentés, provenant de différents patients. Et donc c'est du tissu tumoral. Voilà, et on regarde l'ensemble des ARN composant ce tissu tumoral. C'est à partir de là qu'on démarre.
Et juste une question sur la cohorte, on ne l'a pas précisé, ça représente combien de patients, cette cohorte?
77.
D'accord.
En 77, tout, ouais, en comptant
les patients avec des tumeurs et des individus qui n'ont pas de tumeur, puisqu'on fait la différence entre tumeur et pas tumeur.
Mais alors, du coup, ceux qui n'avaient pas de tumeur, on leur a quand même prélevé un échantillon de tissu cérébral?
Alors, non. C'est justement un petit peu la particularité. En fait, ce qui nous sert de contrôle, ce sont des tissus non tumoraux, mais ce ne sont pas des tissus sains, c'est-à-dire que ce sont des tissus malades. Donc effectivement, il y avait nécessité d'une opération, on n'a pas prélevé ça à des gens lambda. Donc c'est des tissus effectivement qui ne sont pas sains, mais qui ne sont pas tumoraux pour autant. C'est à partir de là qu'on a pu quand même essayer de faire un échantillonnage contrôle en quelque sorte.
D'accord. Alors, on va entrer un peu plus dans la méthode. Donc, on en a parlé au début, vous combinez l'analyse des marques chimiques de l'ARN par spectrométrie de masse et l'intelligence artificielle. Alors, c'était plutôt une question, je pense, pour Christophe Hirtz, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est que la spectrométrie de masse, Alexandre David?
Ouais. Alors, la spectrométrie de masse, effectivement, Christophe aurait été plus à même, parce que c'est un peu plus l'excellence en spectrométrie de masse par rapport à mes connaissances. Il aurait pu vous le dire plus en détail, mais finalement, ce qui est la manière la plus simple de comprendre la spectrométrie de masse, c'est de considérer un spectromètre comme une balance qui va simplement mesurer donc la masse de molécules individuelles et qui va nous permettre de quantifier donc le nombre de ces molécules présentes dans l'échantillon de départ. Voilà, c'est une balance extrêmement chère et une balance au niveau de l'atome. Voilà.
D'accord. Et elle parvient à identifier donc les molécules en fonction de leur poids ou en fonction... Elle est un peu bête, ma question, mais...
Alors, effectivement, il y a la masse. Il n'y a pas que la masse, parce qu'en amont, il peut y avoir... on peut également discriminer par rapport aux charges, tout ça. C'est un ensemble. Mais c'est effectivement principalement la masse. Donc, on obtient des spectres qui sont spécifiques à chaque molécule et qui permettent effectivement de leur donner une identité très précise. Donc, c'est vraiment un instrument très puissant. À ce niveau-là, parce qu'il est très sensible, on peut détecter très petites quantités et on peut surtout identifier de manière très précise des molécules qui sont assez proches les unes des autres.
Alors, Éric Rivals, vous avez procédé à une analyse statistique multivariée et des approches d'apprentissage automatique. Ouais, j'ai repris in extenso le communiqué, vous allez nous expliquer un peu. Alors, l'analyse statistique multivariée, déjà, qu'est-ce que vous analysez et qu'est-ce que ça veut dire multivariée?
Lorsque on donne les échantillons à la plateforme chez Christophe Hirtz, les échantillons, les ARN de ces échantillons, sont passés dans la machine spectrométrie de masse. Et ce qui sort, c'est qu'on va mesurer 29 modifications sur des briques élémentaires de l'ARN. D'accord ? Donc on a 29 décorations sur ces briques de l'ARN qu'on peut mesurer avec cette machine. Et on a donc 29 valeurs de quantité de masse pour ces 29 modifications. Et ça, ça nous fait une sorte de vecteur, en maths, on dirait un vecteur. Et c'est ça qu'on va analyser. Donc on a un vecteur, un ensemble de 29 mesures pour chaque patient et pour chaque individu qui n'a pas de tumeur. Voilà. Et ces vecteurs, multivariés, c'est parce qu'il y a 29 mesures, donc il y a 29 variables. Et donc, on va pouvoir utiliser ces analyses. Par exemple, si on voulait représenter chacun des patients en fonction de ces 29 valeurs, il faudrait un espace à 29 dimensions. Et ça, ce n'est pas très pratique à manipuler. Donc, par exemple, on a fait une sorte de réduction de dimensions et on peut projeter les valeurs d'un individu sain ou cancéreux dans un espace où il n'y a que 3 dimensions. Donc, vous vous rappelez, à l'époque, quand vous avez fait des mathématiques à l'école, vous aviez un espace avec des coordonnées x, y, z. Et bien voilà, là, on a des coordonnées x, y, z qui représentent chacun des patients ou chacun des individus non-tumeurs.
Alors,
cancéreux.
Je n'ai pas pensé à vous le demander tout à l'heure, mais ces 29 variables, ces 29 décorations, comment vous les choisissez, entre guillemets ?
Y a une part, c'est parmi celles dont on pense qu'elles peuvent varier de manière significative dans les ARN qu'on va regarder, qui sont l'ensemble des ARN, mais il y a aussi une capacité technique, parce qu'on ne sait pas encore toutes bien les mesurer avec la plateforme. Donc il y a une capacité technique, et cette capacité technique, on est en train de l'augmenter. On a commencé avec 29, mais maintenant, on en fait 35, je crois.
On en fait 35,
voilà.
Ça vous donne encore plus de travail, ça, alors ? Maintenant, vous avez 35
Non, parce que 29 ou 35, ça ne change pas grand-chose. C'est juste qu'on a plus de signal.
D'accord. Et donc, on parle d'approche d'apprentissage automatique. Donc là, je suppose qu'on parle d'intelligence artificielle. Comment elle intervient dans ce processus de diagnostic ou de pronostic?
Oui, parce qu'avec les analyses statistiques, on a regardé si ces valeurs de 29 mesures nous disaient quelque chose, séparer un petit peu les patients, disons, sains des patients cancéreux. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle va extraire du signal une capacité de prédire le grade de la tumeur. Voilà. Donc, on lui montre des exemples. C'est un programme. On fabrique un programme auquel on montre des exemples de vecteurs de 29 valeurs, d'accord ? En sachant que pour certains vecteurs, c'est un patient cancéreux et pour certains autres vecteurs, c'est un patient non cancéreux. Voilà. Et lui, il va apprendre, et en sachant pour les patients cancéreux de quel stade il est. Et il va apprendre à voir s'il y a des valeurs qui aident à faire la différence entre les stades 2, 3, 4 ou le fait qu'un patient n'ait pas de tumeur. Voilà. Et donc, on a une phase d'apprentissage, on lui montre des exemples, et ensuite, dès qu'on a un nouvel échantillon, on peut lui donner un nouvel échantillon, et on lui dit, prédit le grade ou le fait que le patient soit sain ou tumoral.
Et justement, avant cette approche, c'est-à-dire pour l'instant, comment est-ce qu'on fait pour déterminer le grade d'un tel type de tumeur ? C'est quoi la méthode utilisée actuellement et quel est l'avantage de la vôtre par rapport à celle qu'on utilise actuellement ? Alexandre David.
Alors, actuellement, tout va reposer sur des anatomopathologistes qui vont réaliser des marquages. Donc les échantillons tumoraux vont être inclus et vont être découpés en fines lamelles qui vont être analysées au microscope avec différents marqueurs. Et en général, il y a toujours deux médecins qui vont regarder ces coupes et qui vont donner leur avis de manière totalement séparée, à l'aveugle, chacun de son côté. Et ils vont ensuite essayer de voir si leur avis converge vers la même observation pour pouvoir identifier le grade et identifier le stade tumoral, identifier et donner un pronostic in fine et orienter, on va dire, la prise en charge du patient par rapport à ce qu'ils ont vu. Voilà. Donc ça prend quand même un certain temps, ça reste subjectif, il y a toujours des zones d'ombre et Pour autant, il faudrait, donc c'est une des raisons pour lesquelles on a développé la technologie, il faudrait accélérer un petit peu cette étape-là et être un peu plus sûr du résultat.
C'est-à-dire, excusez-moi, juste une question là-dessus, il faudrait être un peu plus sûr parce qu'en termes de prise en charge pour le patient derrière, ça veut dire des meilleures chances de guérison pour lui si jamais plus tôt on arrive à déterminer de quel grade est cette tumeur.
Alors, la guérison pour le glioblastome, on ne va pas vraiment en parler parce que ça reste quand même une maladie, malheureusement, avec un pronostic plutôt négatif sur du long terme. En revanche, les grades, on va dire, les gliomes de bas grade ne vont pas avoir la même évolution que les gliomes de haut grade. Et si on est capable de séparer le grade 2 et le grade 3, on va être capable de faire une prise en charge qui est adaptée au low grade par rapport au grade plus élevé. Et c'est important de déterminer ce grade pour donner, on va dire, la meilleure chance de survie sur plusieurs années aux patients. Identifier grade, qu'est-ce qui est grade 2, qu'est-ce qui est grade 3, ça paraît peut-être une question un peu simpliste, mais dans la réalité du patient, ça peut changer énormément sa prise en charge et son suivi. Donc c'est pas anodin, quoi.
Vous disiez tout à l'heure que les questions, elles partaient des praticiens. Donc là, on a ce diagnostic qui va être posé par une intelligence artificielle, ou en tout cas ce pronostic. Et puis, j'imagine des praticiens qui restent présents à côté de cette analyse. Comment on fait dialoguer, comment on fait dialoguer les praticiens avec ce genre de méthode, justement, de nouveaux diagnostics plus techno?
Alors, je ne sais pas. Après, Eric a probablement son mot à dire en la matière. Mais de toute façon, initialement, le besoin provient des praticiens qui ont des soucis, qui ont une question clinique qu'ils souhaitent améliorer, qu'ils souhaitent optimiser en utilisant des outils technologiques. Donc à la base, c'est eux quand même qui posent la question. Après, effectivement, toute l'étude a été réalisée, en étroite collaboration avec eux.
Je crois que j'ai mal posé ma question. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça laisse encore une place à l'interprétation?
Encore une place à l'interprétation.
Ou est-ce que... non.
Oui, bien sûr, parce que l'intelligence artificielle, elle n'est pas là pour remplacer le clinicien. Le clinicien, il a tout un tas d'informations. Par exemple, il connaît la vie du patient. Il l'a vu en consultation plein de fois. L'intelligence artificielle, elle va utiliser ces mesures pour essayer de faire une prédiction. Et sera une information de plus pour le praticien pour décider quel est vraiment le stade et s'appuyer dessus pour prendre des décisions de traitement thérapeutique, de suivi du patient. Donc c'est de l'aide à la décision, c'est pas une décision à la place des cliniciens.
De toute façon, à la fin, c'est une valeur qui est donnée à la fin du pipeline, c'est pas.
Ouais.
Ah ben le pipeline, justement, c'était ma question suivante. Parce que donc vous l'avez breveté dans le communiqué, on dit cette méthode, et vous parlez de pipeline unique. Qu'est-ce que ça veut dire, pipeline, Eric Rivals?
Un pipeline, c'est une idée très simple. C'est un enchaînement de différents protocoles et méthodes. Donc ici, à partir du tissu, il y a un prélèvement qui est fait. De ce prélèvement, il y a un premier protocole biochimique pour extraire les ARN, pour les préparer. En deuxième, il y a un deuxième protocole, une deuxième étape, pour les passer dans la machine de spectrométrie de masse et récupérer les 29 valeurs sur les modifications qu'on cherche à mesurer. Et ensuite, il y a une troisième étape qui est le protocole informatique qui, lui, va prendre ces valeurs, le donner au programme d'apprentissage automatique qui, lui, va proposer une décision pour le stade ou le fait que ça soit un échantillon non tumoral ou tumoral. Voilà. Donc, c'est l'enchaînement de différentes étapes, différents protocoles, le plus normalisé, le plus sécurisé possible, qu'on veut essayer de mettre en place et de rendre le plus rapide possible. Après, Anna, une question que vous avez posée sur l'avantage par rapport à la méthode actuelle, c'est que la méthode actuelle, elle se base sur des informations cliniques de macro. Voilà, on regarde des découpes avec des marquages. Là, il s'agit d'une information qui est au niveau moléculaire, ça nous informe sur le fonctionnement des cellules tumorales. Et donc, ce fonctionnement des cellules tumorales, ça nous dit quelque chose sur le développement de la tumeur. Et c'est assez important de combiner les deux, probablement.
Alors, le temps est passé très vite. On est déjà arrivé au terme de cette émission. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci de nous avoir reçus.
Merci pour votre clarté. C'est devenu très, très clair.
Super.
Alors on passe maintenant à notre séquence reportage. Et pour ce second volet de notre série consacrée aux 30 ans du lire, mais à sa porte ouverte qui aura lieu le 8 octobre, Robin Passamain et Benjamin Navarro nous emmènent dans l'antre des robots.
Alors je suis Robin Passamain, ingénieur de recherche CNRS, et je suis chargé en gros du développement essentiellement logiciel des robots, de la plateforme de robotique.
Ouais, moi c'est Benjamin Navarro, ingénieur de recherche CNRS aussi, aussi en charge de développement logiciel et aussi un peu plus spécifiquement de tout ce qui est contrôle de robots.
Alors, qu'est-ce que vous voulez bien nous montrer aujourd'hui ?
Dans cette halle dans laquelle on parle, nous développons des manips dans différents domaines, la cobotique, donc l'interaction directe entre l'homme et le robot, la robotique à câble, c'est une manière de concevoir des robots qui sont construits à partir de technologies assez classiques, que sont des câbles comme on le trouve par exemple sur des grues. Il y a des robots sous-marins qui sont aussi conçus ici et développés, et des robots humanoïdes, qu'on a plutôt tendance à acheter parce qu'on n'est pas encore cette expertise de conception de robots humanoïdes. On va commencer par ça ?
Ouais, celui qui cueille des oranges.
Donc ça, c'est un robot qu'on appelle Cobot, pour contraction de Collaborative Robot. Ce sont des robots dont l'idée générale est qu'ils puissent assister les hommes réellement, alors ce qui est loin d'être le cas pour l'instant, hein, soyons clairs, mais on essaie de développer différentes choses, alors ça peut être de la commande et également des activités sur la perception et l'interprétation de la scène. Donc là vous pouvez voir un arbre, donc il faut essayer de détecter où sont les feuilles, où sont les fruits, et puis éventuellement essayer d'avoir un modèle de déformation de l'arbre. Alors pour l'instant, ça reste extrêmement simple.
On va le décrire un petit peu, ce robot, avant d'aller plus loin. Donc, c'est un grand cube avec deux grands bras orange et il est devant un faux oranger. Donc son but, c'est vraiment de cueillir des oranges.
C'est exactement ça, oui. Le but, en fait, donc, comme on disait tout à l'heure, c'est donc localiser les oranges via une caméra qui est sur le robot. Et donc en fait, après, le robot va venir avec sa main gauche où il y a un sécateur pour venir au-dessus de l'orange, couper, et avec un endroit en dessous, un pour récupérer les fruits et pas qu'ils tombent par terre. Là, il est dans une configuration comme ça, mais bon, le robot n'avait pas été conçu pour cette manip-là en particulier, qu'on fait plein de choses avec, et voilà. Donc,
qu'est-ce que ça pourrait être, ces autres applications ?
Ce qu'on fait souvent, ça va être assister des travailleurs, par exemple, des fois, à porter des charges lourdes.
Je vois sur la table, à côté du robot, il y a une main robotisée. Oui. Et elle s'adapte au robot, celle-là aussi ?
On peut la monter sur les bras qu'on a ici. Donc, on peut monter les deux mains et donc manipuler des objets, on va dire, plus petits et plus finement avec ces mains-là, même si elles restent encore assez complexes à utiliser, parce qu'on a quand même 19 articulations à l'intérieur.
Alors, sur ce type de robot, c'est quoi le défi pour vous, hein, les points compliqués à mettre au point, justement?
Déjà, toute la partie contrôle, il y a aussi toute la partie perception. Par exemple, il faut savoir que les différentes phases du robot sont contrôlées à la main. Donc, on est derrière sur un clavier et on dit passe à la phase suivante. Ce qui, évidemment, n'est pas envisageable dans un vrai scénario, dans une vraie usine. Pour ça, il faut avoir des moyens, que le robot ait les moyens de comprendre ce qui est en train de se passer dans le processus industriel. On doit pour ça être capable d'analyser le mouvement, d'interpréter ce mouvement, donc de le modéliser, de l'interpréter pour en tirer des conclusions. Donc, par exemple, qu'est-ce qui est en train de faire l'ouvrier ? Et donc, pour ça, on utilise de la vision. Donc, il faut reconstruire la posture en réel de la personne. Et puis, à partir de cette posture, avoir une interprétation des données. Donc, de nos jours, on a plutôt tendance à vouloir utiliser des approches type intelligence artificielle.
Et la fameuse partie contrôle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste ?
En fait, manipuler des objets avec deux bras en même temps, ça pose ses problèmes, ça rajoute des contraintes. Et donc, il faut que les deux bras, déjà, il faut qu'ils se déplacent de façon synchronisée. Donc, on a développé, on va dire, des approches pour simplifier un petit peu ça, dire, en fait, on veut on veut déplacer la pièce, et puis, on va dire, les bras, ils bougent, plutôt que de dire, faut que j'en mette le bras gauche à tel endroit, puis le bras droit à tel endroit, qui serait plus compliqué et plus compliqué à synchroniser. Aussi, sur la perception, justement, on parlait des efforts. Donc, en fait, quand la personne veut manipuler la pièce, quand une fois que le robot il la tient, il va prendre la pièce, il va vouloir la bouger. Et en fait, ça, on le ressent, on va dire, enfin, le robot le ressent, d'une certaine façon, via des capteurs qu'il a au niveau de ses poignets, qui mesurent les forces appliquées. Et donc, il faut qu'on arrive un peu à séparer tout ça pour reconstruire vraiment qu'est-ce qui vient de la personne, qu'est-ce qui vient du poids de la pièce, qu'est-ce qui vient des efforts internes de serrage, etc., pour pouvoir réagir comme il faut.
Moi, j'ai une question sur la forme de ce robot. Les bras, c'est pas juste deux articulations, il est tout en coude. À quoi ça sert ?
Une partie des robots collaboratifs, ils vont vont avoir en fait cette articulation pour en fait se rapprocher un peu de ce qu'on a sur un bras humain. Si on en avait que 6, en fait, le robot serait très contraint, c'est-à-dire que pour avoir, on va dire, sa main à un endroit de l'espace, il serait forcément dans une certaine configuration articulaire, alors que d'en rajouter 7, ça laisse un peu de liberté. Si vous regardez, en fait, on est segment, mais chaque partie entre deux articulations est très similaire, en fait, au moins sur les 4-5 premiers. C'est tout ça pour des soucis d'économie en conception, en fait. Donc c'est un truc un petit peu symétrique, comme ça, qui permet de, au final, on va dire, un peu réduire les coûts et de simplifier la conception. Et ensuite, celui-là, donc il a un peu tout arrondi de partout. Et c'est justement parce que c'est un robot collaboratif qui a vocation à être à proximité et travailler avec des humains. Et donc, si quelque chose se passe mal et qu'il vient taper quelqu'un, ça lui fera moins mal si c'est une forme arrondie que s'il y a des formes, on va dire, un peu plus anguleuses et choses comme ça. Voilà. Accidentellement, bien entendu.
La semaine prochaine, le dernier épisode de cette série nous emmènera cette fois au département d'informatique. Pour conclure notre émission, donc les trois dernières minutes seront consacrées à Catherine Alix Panabière. Nous avions reçu cette chercheuse et praticienne hospitalière il y a quelques mois pour nous parler de la biopsie liquide, utilisée pour diagnostiquer là aussi les cancers. Cette fois-ci, elle nous parle de l'exposition à laquelle elle participe en tant que consultante scientifique, Cancer, c'est son nom, est visible à la Cité des sciences et de l'industrie jusqu'au 8 août prochain. Catherine Alix Panabière, bonjour.
Oui, bonjour, merci de m'inviter.
Et merci d'être avec nous. Alors, avant de nous parler un petit peu de l'exposition, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et de quelle manière vous avez été associée à cette exposition ?
Bah écoutez, j'ai été contactée par le directeur de la recherche et l'innovation de l'INCa, l'Institut national du cancer, directement pour essayer de couvrir tout ce qui était recherche et innovation. Puisqu'on va en parler, cette exposition est totalement originale et nouvelle, et c'est une première en France, et il y a toute une partie recherche et innovation. Et c'est pourquoi j'ai été conviée à participer activement à cette exposition.
Alors, donc, on va tout de suite parler un petit peu de ce qu'on trouve dans cette exposition. Ça peut paraître surprenant, justement, une exposition baptisée Cancer. Donc, qu'est-ce qu'on va y apprendre ?
C'est vrai que c'est destiné à tous les publics à partir de 14 ans, et elle aborde vraiment multiples aspects scientifiques, psychiques et sociétaux de la maladie, et elle présentera un état des lieux sur les traitements pour mieux combattre les idées reçues et libérer la parole sur ce qu'est le cancer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu inaugurer la semaine dernière, qui est extraordinaire, et c'est vrai que j'invite tout le monde à y aller, puisqu'on connaît tous de loin ou de près quelqu'un touché par le cancer, et ça permet effectivement d'enlever les tabous, mais on va sûrement y revenir.
Alors l'expo, vous avez dit qu'il y avait des témoignages, c'est pas du théâtre en effet. L'exposition par contre, elle propose une pièce de théâtre en 4 actes, donc une pièce de théâtre qui s'appelle « Comment traite-t-on le cancer ?». Vous, d'un point de vue scientifique, est-ce que vous pensez que l'art peut apporter quelque chose de différent justement qu'une parole scientifique sur la vision qu'on a de cette maladie ?
Oui, alors j'ai pu assister par rapport à il y a une pièce où vous avez finalement, c'est l'annonce du cancer par le médecin à son patient. Et c'est vrai que c'est très artistique parce que ce sont des dessins très joliment faits avec une musique très appropriée. Et en fait, quand on se retrouve dans cette pièce et qu'on voit finalement avec l'art, puisque c'est le dessin et la musique, cette annonce douloureuse du cancer à un patient, eh bien, on se sent pris dans ce tourbillon. On se met à la place du patient, si on n'a pas été patient soi-même, et on ressent quelque chose de très fort. Donc je pense que l'art, par le dessin et la musique, peut donner vraiment des sensations très spéciales. Et pour l'avoir vécu, il y avait beaucoup d'émotions. Donc c'est très important de le dire.
Bien, je vous remercie beaucoup, Catherine Alix Panabière. Donc, je rappelle, l'exposition, elle a commencé donc, le 6 septembre dernier, c'est bien ça ?
Oui, elle a commencé le 6 septembre dernier, donc j'étais à l'inauguration le 4 septembre avec les directeurs de l'INCa, parce que je voulais quand même dire que c'était vraiment une exposition qui a été conçue avec un partenariat fort avec l'Institut national du cancer, et que c'est une exposition qui va être itinérante après Paris, trilingue, elle est faite en français, en anglais et en espagnol, et elle est à peu près sur une superficie de 650 mètres carrés. Donc il y a beaucoup d'installations audiovisuelles où on rentre vraiment dans le cancer avec l'origine, le développement du cancer, les thérapies. Tout ceci va être couvert par cette exposition. Donc je vous invite vraiment à y aller, c'est magnifique.
Et elle est donc à voir jusqu'au 8 août 2023. Un grand merci.
Exactement.
À vous.
Et merci, au revoir.
Et à très bientôt, au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission, à Aline Perriot pour sa complicité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.